sorties de boîte.
Avec création de formation pour votre entreprise, cefna.ch.
Cette fois-ci, le lieu de rendez-vous n'était ni une entreprise, ni une boutique, mais le domicile de mon invité. Me voilà à Bienne, dans le quartier de Bougeant, non loin de la forêt. J'arrive chez mon interlocuteur qui vit dans un petit immeuble familial. Lorsque je pénètre dans l'appartement, j'aperçois immédiatement quelqu'un qui range des montres. Elle se présente, c'est sa femme, et elle est en train de mettre en place les derniers détails. J'aperçois tout de suite que le défi professionnel que mon invité s'est lancé, il ne le vit pas seul. Son univers à lui, c'est l'horlogerie. Ses ancêtres étaient déjà dans le métier et c'est probablement eux qui lui ont transmis le virus. Depuis 4 ans, il design lui-même des collections hommes et femmes en espérant que la mayonnaise prenne chaque jour un peu plus, puisqu'à l'heure actuelle, il ne peut pas vivre que de la vente de ses collections. Par ses origines colombiennes, mon invité aime voyager et découvrir de nouvelles cultures. Il est déterminé et passionné par l'horlogerie. David Gagnebin, bonsoir.
Bonsoir Alizé.
Sortie de boîte, Alizé Lichti.
David Gagnebin, vous avez choisi il y a maintenant presque 5 ans de lancer votre propre marque de montres, G. Gagnebin et compagnie. Qu'est-ce qui vous a donné l'impulsion ?
Alors c'est vrai que depuis petit, justement, je vois des montres. Mon papa a travaillé plusieurs années dans une grande entreprise horlogère aussi. Il y avait des montres aussi de l'époque de mes ancêtres, des catalogues, etc. Et depuis petit, j'ai toujours eu cet intérêt, en fait, pour l'horlogerie. Je m'étais toujours mis un peu dans le coin de la tête d'une fois relancer, justement, cet héritage familial.
Lancer une marque n'est pas simple. Cela demande bien évidemment des compétences. Ces compétences, vous les aviez acquises car vous étiez déjà dans le métier ?
Alors absolument, oui. Au sortir de l'école obligatoire, j'ai fait une formation de dessinateur en microtechnique à Saint-Imier. Suite à ça, en fait, j'avais un petit peu envie de continuer dans la création. Donc j'ai fait une formation de design industriel à Lausanne. Et parallèlement, en fait, à cette formation qui était à l'époque en cours d'emploi, j'avais un stage justement dans un bureau de design en horlogerie et en bijouterie.
Avec toujours dans le coin de votre tête de vouloir lancer votre propre marque à ce moment-là déjà, en fait.
Alors à ce moment-là, c'était encore un petit peu loin quand même, étant totalement inexpérimenté dans le milieu.
Vous lancez donc cette marque en 2013, juste après la crise horlogère, exportation, chute libre, licenciement et j'en passe. Est-ce que cela ne vous a pas fait peur ?
Non, pas plus que ça. C'est vrai que, avec le recul, je me dis que voilà, c'était un peu fou de le faire. Mais en même temps, c'est vrai, quand on est une petite marque, une petite structure, déjà, le premier challenge, en fin de compte, c'est de se faire connaître. Donc, crise ou pas crise, le défi, je dirais, est en fin de compte le même.
Avec les bases que vous aviez acquises lors de vos études, vous avez été capable de tout faire vous-même de A à Z. Comment ça s'est passé ?
Alors, c'est vrai que les bases de l'étude, c'est une chose, mais c'est surtout en fait mes différentes expériences professionnelles qui ont fait que j'ai acquis une certaine expérience dans la création horlogère. Et puis, au moment en fait où j'ai lancé la marque, je travaillais dans une entreprise de sous-traitance, donc qui, elle, était à même, en fin de compte, de me livrer le produit fini. Donc, c'est aussi un gros avantage de le faire de cette façon, en fin de compte, plutôt que d'aller chercher moi des fournisseurs, etc.
Durant cette période qui n'est pas faste pour l'économie, on l'a dit, vous avez démarré avec un budget d'environ 100 000 francs. Cette somme, elle provient d'où ? De vos économies personnelles ?
Ah oui, il y a une part effectivement d'économie personnelle. Malheureusement, je n'en ai pas non plus autant que ça. Et en fait, je suis allé un petit peu... Comme Breguet le faisait à l'époque, c'est-à-dire il allait montrer ses prototypes à des gens et il a vendu en fait sur base de prototypes. Et c'est comme ça que j'ai récolté quand même une somme de quelques dizaines de milliers de francs. Et moi, j'ai aussi eu l'opportunité de faire entrer dans cette aventure un partenaire justement qui a aussi investi quelques dizaines de milliers de francs.
Et comme beaucoup d'autres marques qui se lancent, vous avez tenté dans un deuxième temps, cette fois-ci, de récolter des fonds grâce à des plateformes web de financement participatif. Cette expérience, elle n'a pas été concluante pour vous ?
Alors, je dirais qu'elle n'a pas été concluante. Si on parle du résultat final, si on le prend, donc effectivement, je cherchais 70 000 francs, j'en suis arrivé plus ou moins à 35 000. Donc, c'est clair, j'ai pas touché un franc, du coup, de cette plateforme. Après, avec le recul, ben, c'est vrai que je suis certainement pas assez bien préparé. Ça s'est un petit peu fait en vitesse. Donc, il n'y a pas eu tout le travail d'amont, en fait, que j'aurais dû faire. Mais malgré tout, j'ai aucun regret. Et grâce à ça, en fin de compte, j'ai pu financer ma troisième collection. Parce qu'il y a pas mal de gens qui étaient déçus, justement, de ne pas recevoir le produit. Qui m'ont dit, si tu refais quelque chose, avertis-nous. Et on est prêt à mettre l'argent. Et entre-temps, j'ai aussi trouvé d'autres fournisseurs qui avaient des meilleures conditions. Donc, en fin de compte, c'était au final plutôt positif.
Est-ce que cet échec peut aussi s'expliquer d'une manière qu'il y a beaucoup de concurrents, beaucoup de personnes qui essayent de lancer des marques de montres, dans la région notamment ?
Non, je ne pense pas. C'était vraiment... Après, j'ai un petit peu plus analysé le pourquoi du comment. C'est vraiment un problème de préparation. C'est vrai que je vois aussi ici en Suisse, on a des exemples qui ont bien marché, mais c'est des gens qui teasent, qui font pas mal de bruit sur les réseaux sociaux, etc., sur des blogs horlogers, 3-4 mois avant. Donc c'est tout ce travail en fait auquel je n'avais pas forcément pensé avant.
David Gagnebin, est-ce qu'aujourd'hui vous vivez de votre marque de montre ?
Alors malheureusement pas encore, non.
On va évoquer à présent la production. Vous avez choisi, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, de produire vos montres et de sous-traiter cette production en Asie. Pourquoi ? Pour une question de rentabilité ?
Alors c'est sûr qu'avec les prix que j'ai, je crois qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais je suis autour des 1000 francs, plus ou moins. Avec une montre mécanique suisse, c'est clair que si on fait tout en Suisse, ce ne serait pas possible d'avoir ces prix. Après, par contre, je mets quand même un point d'honneur. Alors certes, comme vous l'avez bien dit, je travaille avec des sociétés en Asie pour plusieurs composants. Par contre, je mets quand même un point d'honneur justement à travailler avec des entreprises suisses qui elles-mêmes en fait sous-traitent en Asie. C'est-à-dire qu'on a un développement, un suivi qui est fait en Suisse et quand même aussi une qualité de service suisse.
Ça veut dire que vous choisissez vous-même ce qui est produit en Asie et ce qui est contrôlé ou produit ici en Suisse ?
Voilà, ouais, c'est ça. Ouais.
Cette production, vous ne la gérez pas vous-même non plus. C'était aussi plus simple de ne pas aller voyager et des allers-retours vers l'Asie ?
Complètement, ouais, c'est clair. Surtout quand on n'a pas forcément non plus les fournisseurs, les bonnes adresses, la qualité, etc. Donc c'est clair que c'était vraiment le meilleur choix pour commencer.
Et puis pourquoi l'Asie ?
Alors pourquoi l'Asie ? C'est vrai que depuis quand même déjà quelques bonnes vingtaines, voire plus d'années, les entreprises suisses travaillent en Asie, donc il y a aussi quand même un savoir-faire. Il y a aussi des grandes marques qui ont aussi instauré certaines normes de qualité là-bas dans des entreprises en Asie. Et d'ailleurs, effectivement, on arrive à très très bonne qualité.
Au départ, vous avez produit 300 exemplaires. Est-ce que tous ont été vendus ?
Alors pratiquement tous, oui. Pratiquement tous, la première collection, oui.
Ça veut dire qu'au début, vous étiez assez confiant ?
Au début, ouais, j'étais confiant et peut-être aussi un petit peu rêveur quelque part de me lancer là-dedans. Mais j'ai quand même toujours cru en moi, toujours cru en mon produit et en ce que je fais en fait.
Après une première collection de montres uniquement pour hommes, vous lancez également des modèles féminins. Dans quel but ? De toucher aussi une clientèle féminine ?
Alors oui, exactement, ouais, exactement. Après, c'est vrai que la clientèle féminine aussi, je l'ai remarqué, est plus exigeante en tout cas, ou a plus d'attentes que la cliente masculine par rapport à l'objet montre en lui-même. J'ai eu des femmes, par exemple, qui m'ont acheté des montres de ma première collection pour hommes. Mais c'est vrai que je voulais aussi arriver avec une collection de montres automatiques destinées aux femmes.
Vous parlez des femmes qui sont plus exigeantes que les messieurs. Donc aujourd'hui, c'est un regret d'avoir créé aussi des montres féminines. Alors, vous allez abandonner ce créneau ou pas du tout ?
Absolument pas du tout. Non, absolument pas du tout. Mais c'est vrai qu'en fin de compte, si je caricature un peu, l'objet montre en fait est plus un jouet de garçon que de femme en fait.
Combien est-ce que vous avez vendu de montres depuis le lancement en 2013 ?
Alors, mes chiffres sont totalement confidentiels. Non, c'est pas vrai. J'ai vendu à peu près 400 montres.
Ça correspond aux objectifs auxquels vous étiez fixé ?
Oui, plus ou moins. Ouais, plus ou moins.
Assez rapidement, vous vous rendez compte qu'il est difficile quand même de se faire connaître dans la région, difficile de se faire une place parmi les géants. Vous optez donc pour une communication au travers d'ambassadeurs, chose assez innovante pour une petite marque. Pour vous, que des personnalités connues portent vos montres, c'était un moyen d'être visible ?
Alors absolument, oui. Ouais, clairement.
Comment est-ce que vous avez fait pour sélectionner les personnes qui allaient vous représenter ?
Alors c'est vrai que le premier ambassadeur, c'était Marco Cudinelli, donc a gagné la Coupe Davis avec Roger et Stan. Et en fin de compte, c'est vrai que le milieu du tennis, ça reste un milieu quand même qui a une certaine élégance, certaines classes, et qui s'est commencé un petit peu démocratisé ces dernières années. Et je m'étais dit que lui, justement, ça ferait un ambassadeur intéressant par rapport à ça, par rapport à ce sport que j'aime aussi beaucoup. Et en fait, ben, c'était pas loin d'ici, à la maladie récente, qu'ils présentaient la Coupe Davis, je crois, je sais plus l'année, je crois mars 2015, quelque chose comme ça. Et je vois ça dans le journal, et puis je me suis dit, bon, ben, je vois ça le matin dans le journal, je me dis, bon, je vais essayer d'aller lui parler un petit peu de la marque, et ça s'est fait comme ça, donc on s'est revu après, et puis rapidement, on signait un contrat.
Vous parlez du tennis, qui est un sport quand même assez glamour, assez bien représenté. Comment est-ce que vous avez fait ensuite pour trouver d'autres ambassadeurs ? Vous avez continué dans ce créneau du sport ?
Alors non, pour la deuxième ambassadeur, enfin ambassadrice, c'est Laura Chaplin, donc la petite fille de Charlie Chaplin, qui est artiste peintre. C'est une personne que je connaissais depuis, ça fait peut-être 5-6 ans que je la connais. Et bon, une fois on s'est vus, on a discuté de pourquoi pas faire une collaboration. On a beaucoup réfléchi, on a bien mûri la chose, ça a quand même pris un petit peu de temps. Et ben c'est clair qu'un nom comme Chaplin, c'est mondialement connu, donc ça c'est vraiment intéressant pour moi. Et puis en fin de compte aussi, elle a une personnalité que j'apprécie beaucoup, et c'est vraiment une fille qui est super, donc il y a aussi ce côté-là qui est important pour moi.
Aujourd'hui, vous continuez sur cette voie avec des ambassadeurs, est-ce que cela vous permet réellement de faire des ventes et d'avoir plus de clients ?
Alors oui, effectivement, ça me permet de faire des ventes. Et là, faut pas oublier non plus, comme dernière ambassadrice, j'ai Sarah Acho, qui est spécialiste du 200 mètres, donc en athlétisme, qui est aussi record de woman du 4x100 mètres avec le relais suisse. C'est une fille qui est aussi hyper top, qui est fraîche et qui présente vraiment bien la marque. Donc c'est vraiment appréciable aussi d'avoir quelqu'un comme elle, qui est active aussi sur les réseaux sociaux, ce qui est intéressant aussi pour moi.
Si vous êtes un passionné de l'horlogerie, ce n'est pas pour rien. Comme Astérix qui a baigné dans la potion magique, vous avez plongé dans l'univers des montres. Vos ancêtres étaient déjà dans le métier et vous êtes la 5e génération active dans l'horlogerie. Nadia, ma collègue, avait rendez-vous cette semaine avec vous, David Gagnebin, dans une boutique à Bienne où vous exposez vos collections. Elle vous a d'abord demandé pourquoi avoir relancé la marque de vos ancêtres.
Sortie de boîte.
Alors c'est vrai que l'horlogerie, depuis que je suis petit, c'est une passion, un gros intérêt en tout cas. Je voyais déjà des montres de l'époque chez mon père, chez mes parents. Et ça m'a toujours un petit peu titillé en fait. Et voilà, on m'a aussi dit pourquoi tu ferais pas ça, pourquoi tu relancerais pas. Et j'ai fini par le faire aussi, parce que j'avais trouvé des fabricants qui étaient capables aussi de m'aider par rapport à ça.
Vous me montrez un petit peu la collection ?
Très volontiers, suivez-moi. Alors, on se trouve à la bijouterie Tempus, la boutique, à Bienne. Et j'ai donc ici en vitrine les deux premières collections de la marque. Donc première collection que j'avais lancée fin 2013, début 2014, une collection pour hommes avec des mouvements automatiques. Et ensuite, on a aussi une collection femmes que j'ai lancée 2 ans plus tard, également avec des mouvements automatiques. Donc le nom des collections, c'est Caractero pour la montre homme, qui signifie caractère en fait, parce qu'il en a fallu du caractère pour lancer ça. Et l'autre, c'est un petit peu plus poétique au niveau du nom, ça s'appelle Océan d'étoiles, donc l'étoile, c'est aussi le logo de la marque. Et j'ai différentes variantes donc dans cette version Océan d'étoiles, dont une qui est plaquée or, rose. Quant à la collection Caractero pour hommes, donc là aussi j'ai plusieurs versions. J'ai des versions en acier avec cadran noir et cadran brun. Et également une version tout en noir, donc avec un traitement qui s'appelle PVD noir, que j'ai décliné en plusieurs styles. Enfin, c'est-à-dire une vraiment noire et anthracite, et des autres avec des touches de couleurs, en l'occurrence jaune et rouge.
Vos racines, elles sont extrêmement importantes dans votre société, que ce soit votre nom, Gagnebin, que ce soit l'héritage de vos ancêtres ou même vos influences des différents pays qui vous composent.
Alors effectivement, oui, les racines, c'est très important, et je dirais même plus que les racines, en fait, c'est l'histoire de la région du Jura-Bernois, en fait, qui pour moi est très importante. C'est vrai que c'est une région qui est quand même un petit peu périphérique et qui pour moi est un vrai trésor. C'est toujours un plaisir justement de parler de cette région quand je vais dans d'autres régions de Suisse ou du monde, parce que j'ai des fois l'impression qu'on oublie à quel point, en vivant dans cette région, on a vraiment un patrimoine très très grand et très important. Par rapport à votre deuxième question, qui est le nom de la collection première, en l'occurrence, vu que ça s'appelle Caractero, c'est vrai que moi-même, en fait, je suis né en Amérique du Sud. Je suis adopté d'Amérique du Sud. J'arrive en Suisse quand j'étais très petit. Et du coup, j'ai aussi retrouvé les racines. Donc c'est vrai qu'en l'occurrence, on trouve une petite consonance hispanique dans le nom de cette collection.
Sortie de boîte.
Un reportage que vous retrouvez sur la page sortie de boîte de notre site internet. On vient de l'entendre, David Gagnebin, vous êtes attaché à vos racines, à votre région. Est-ce que vous avez fait le choix de monter votre propre marque afin de rendre hommage à vos ancêtres ?
Oui, d'une certaine façon, si, absolument, oui.
Vous vous êtes dit, mes ancêtres étaient dans l'horlogerie, alors il faut que je suive la tradition ?
Oui, quelque part, oui, suivre la tradition. Et c'est vrai que, comme je mentionnais tout à l'heure, c'est aussi une région, le Jura-Bernois, qui est pour moi vraiment très importante. Et aussi pouvoir dire que je suis de cette région, dans le berceau de l'horlogerie, c'est quelque chose d'important pour moi, oui.
L'implication antérieure de votre famille dans le domaine de l'horlogerie, est-ce qu'elle vous a ouvert des portes ?
Alors, c'est une bonne question. J'ai un peu de la peine à y répondre, en fin de compte. En tout cas, ce qui ressort, c'est vrai que beaucoup de personnes, beaucoup de clients, en fait, apprécient le fait que je relance une marque, que je ne lance pas une marque quelque part. Donc, il y a un héritage derrière de famille qui est important. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment relevé et apprécié.
Vos ancêtres avaient lancé cette marque G. Gagnebin et compagnie à quel moment ?
Alors, juste petite parenthèse, en fait, G.M. Compagnie, c'était le nom d'une société qu'ils avaient, ils exploitaient d'autres marques. Alors, en fait, ça a été officiellement enregistré en 1932 dans le registre du commerce en Suisse. Par contre, le père, donc G, c'était Georges Gagnebin, donc mon arrière-grand-père. Par contre, son père lui-même, qui s'appelait Numa, avait déjà lancé une marque à la fin du 19e, autour des années 1890.
Ensuite, toutes les générations ont tenu la tendance ou il y a eu des arrêts ?
Alors au niveau de la marque et de la société en elle-même, il y a eu des arrêts au milieu des années 60. Par contre, mon père, lui, a évolué 40 ans dans l'horlogerie, dans une marque à Saint-Imier.
Très attaché aux valeurs anciennes, vous décidez aussi de créer une collection vintage. Pourquoi ? Parce que vous vous dites que les montres non automatiques auront plus de succès.
Alors c'est vrai que la dernière collection que j'ai lancée, ça s'appelle Renan, en fait, le petit village du Jura-Bernois. Et pour une double raison, en fait. La première, c'est lié à la famille Gagnebin en elle-même, qui est originaire en Suisse, à Renan, depuis les années 1400. Donc j'ai retrouvé la trace de tous les ancêtres. Et puis Renan, aussi, comme beaucoup de villages dans la région du Vallon de Saint-Imier, était un village qui avait aussi son importance dans l'horlogerie.
On voit aussi dans la mode, dans l'horlogerie également, cette tendance du vintage qui revient. Vous pensez que c'est quelque chose qui va prendre et qui va perdurer ou c'est juste une sorte de passade ?
Alors qui va prendre, ça je pense qu'effectivement on est en plein dedans. Donc là on parle de l'horlogerie, mais comme beaucoup d'autres domaines où on est en plein dedans. Je ne sais pas exactement comment ça va évoluer. Après c'est vrai que le modèle que j'ai a une inspiration vintage, mais n'est pas non plus vraiment la montre vintage avec tous les codes de l'époque. Donc il y a quand même pas mal de codes, mais pas tout non plus.
Vos modèles précédents coûtaient entre 1000 et 1300 francs. Les plus récents ont légèrement baissé, 800 à 950 francs. Votre objectif, c'est quoi ? C'est d'avoir des prix plus bas, plus accessibles ?
C'est ça, oui, exactement. C'est vrai que j'ai aussi un petit peu le retour de certaines bijouteries et aussi un peu une réflexion plus globale aussi, si je veux un peu pénétrer d'autres marchés, d'avoir un prix un petit peu plus abordable, tout en restant quand même un prix correct par rapport à une montre mécanique ou automatique.
On reste dans l'univers horloger, mais on change de marque, puisque Marie-Lise Saillard nous fait découvrir ce soir une marque française. Elle est minimaliste et son design est novateur à souhait.
Pile à l'heure.
Compris, aujourd'hui on passe la frontière. J'espère que vous n'avez pas de sac poubelle dans votre coffre, nous entrons en France. Faisons connaissance avec la jeune marque 8, même si ça ne sonne pas très français, marque fondée fin 2013, dont les montres sont conçues en France. Les mouvements quartz sont faits au Japon. Et l'assemblage est pour l'instant réalisé à Hong Kong. Rencontre avec un des deux fondateurs de la marque, Thibault Luc.
Moi, je venais du design et du monde plutôt de la mode.
Les gens pensent que la mode, c'est d'être une star, une espèce de rockstar comme ça. Mais c'est pas ça, hein. C'est du boulot.
Et notre volonté, c'était de démocratiser le design dans la mode horlogère. C'est-à-dire actuellement, sur le marché horloger, des montres un petit peu lifestyle ou mode, c'est souvent des produits qui sont assez basiques en termes de finition. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment apporter beaucoup de détails, des montres de très haute qualité qui soit conçu de A à Z avec des finitions très poussées, tout pour un prix très abordable.
Ok, alors du coup, quel est le style des montres 8 ? À quoi ressemble-t-elle ?
On a des aiguilles qui sont très identitaires, on a des verres renforcés qui sont bombés. On travaille vraiment le détail et l'interchangeabilité des matières et des bracelets. L'idée, c'est qu'une même montre, on va pouvoir lui mettre un bracelet liège, qui est une matière qui est très innovante qu'on a développée, ou une maille milanaise ou un cuir.
Ah, la voilà, la vraie French Touch. Du liège, comme pour les bouchons. Drôle d'idée de faire un bracelet en liège, mais après tout, pourquoi pas ? Explication de Thibault Luc.
Ça faisait partie d'une tendance, c'est un matériau nous qu'on aimait beaucoup parce que c'est un matériau qui est durable, c'est un matériau qui est chaleureux, donc à porter, au toucher, c'est très agréable, et puis c'est aussi un matériau qui est très résistant. C'est encore plus résistant qu'un cuir, vous pouvez le tordre, c'est étanche, ça fonctionne très bien et c'est un matériau qui est très durable et c'est quelque chose qu'on voulait utiliser. L'idée, c'est d'aller chercher des matériaux qu'on ne trouve pas ailleurs et on va continuer de décliner la gamme sur voilà, des types de matériaux, de bracelets un petit peu innovants qu'on ne trouve pas partout mais qui restent toujours élégants et ce design de la touche française.
Les montres 8 ne sont pour l'heure disponibles que dans des points de vente en France. Leur prix, entre 129 et 189 euros.
Pile à l'heure.
David Gagnebin, des bracelets en liège, ça vous parle à vous ?
Alors oui, ça me parle en fait. Hier, j'étais à l'EP Agile, salon de la sous-traitance, et j'ai vu effectivement des entreprises de bracelets qui faisaient ça. Donc, c'est pas quelque chose forcément de totalement nouveau, en fin de compte, comme on a peut-être pu l'entendre.
Vous parlez de l'EP Agile. Est-ce que vous vous rendez sur des salons à Baselworld ou SIHH pour vous faire connaître, pour serrer des mains, présenter vos produits ?
Oui, alors c'est vrai que Baselworld, pour l'instant, enfin jusqu'à maintenant, c'était un petit peu inabordable pour moi, donc d'avoir un stand, c'est pas possible. Par contre, c'est clair que j'y vais toutes les années, plusieurs jours de la semaine, depuis près de 20 ans, en fin de compte, déjà quand j'étais adolescent, même quand j'étais à l'époque de l'école, j'allais, justement, comme on l'a dit avant, par intérêt aussi.
Quand on n'est pas encore très connu, est-ce que justement d'aller se montrer, d'aller montrer ses produits, c'est ça qui marche le mieux ?
C'est sûr, quand on n'est pas connu, il faut être visible. Donc ça, il n'y a pas. Voilà, c'est logique en fait. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'aime beaucoup rencontrer des gens, j'aime beaucoup aller voir aussi un peu ce qui se passe. Et des fois, on rencontre quelqu'un qui vous remet en relation avec quelqu'un, etc. Et en fin de compte, on en arrive vite à rencontrer du monde.
Vous parlez de visibilité, vous misez maintenant beaucoup sur les réseaux sociaux, les outils digitaux pour vous développer ?
Alors c'est clair, ce sont vraiment des outils très très intéressants et j'essaye de faire ça au mieux. J'ai aussi envie de les développer un petit peu plus durant ces prochains mois, histoire de capter encore plus d'audience et d'être encore plus connu, effectivement.
Et chose innovante, vous vous rendez ces derniers temps dans des pop-up stores pour vous faire connaître également. C'est quoi ? Ça consiste en quoi ?
Alors, un pop-up store, en fait, en français dans le texte, c'est un magasin éphémère. C'est-à-dire que, là, en l'occurrence, j'en ai un à partir, demain et samedi à Lausanne. Donc là, je loue, en fait, un endroit qui est destiné justement à ça, des magasins éphémères. On peut le louer en fonction de ce qu'on veut. Et ça permet, évidemment, de présenter la marque dans plusieurs villes, en fait, dans n'importe quelle ville. Pratiquement, on trouve ce genre d'endroit.
C'est quelque chose d'assez nouveau. Ça marche bien pour les montres, notamment ?
Oui, c'est vrai que ça fait, je dirais, 2-3 ans déjà qu'on en voit de plus en plus, aussi pour l'horlogerie. Donc c'est vrai que c'est aussi intéressant, d'une part, parce qu'on a le contact direct avec le client, et ce qui est, je pense, appréciable dans les deux sens, en fait.
Sortie de boîte, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup, David Gagnebin, d'être passé nous parler de vos montres. Belle soirée.
Pareillement, merci.
Et puis la semaine prochaine, Alexandra Steiner reçoit David Correa. Il sera question d'une application, elle aussi, innovante. Elle permettra d'ouvrir les barrières de parking, celles de son garage ou encore la porte de sa maison, mais sans sortir quoi que ce soit de sa poche. Le rendez-vous est donc pris dans 7 jours, même heure, même endroit d'ici là. Passez une bonne fin de soirée, une excellente fin de semaine et à tout bientôt.
Sortie de boîte.